Le message de Fatima, ultime remède donné au monde. Profitons de ce que cette année marque le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima pour nous convaincre davantage que la situation dans laquelle le monde et l'Église se trouvent aujourd'hui vient du fait que nous n'avons pas tenu assez compte des demandes de Notre-Dame. Ce sera notre première partie. Et profitons de cette année pour mieux comprendre notre responsabilité dans cette affaire, car il ne faut pas tout reporter sur les papes. Ce sera la deuxième partie. Premièrement, la situation actuelle, conséquence du refus d'accéder aux demandes du ciel. Le 13 juillet 1917, à Fatima, Notre-Dame dit « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. » Fin de citation de Notre-Dame. Notons ici, premièrement, Notre-Dame ne nomme pas le communisme, elle parle des erreurs de la Russie. Deuxièmement, ces erreurs ne sont pas nées en Russie, on les trouve dans le manifeste du Parti communiste, publié pour la première fois à Londres en février 1848 par Marx et Engels. Mais c'est la Russie qui, la première, a appliqué à la lettre le programme du Parti communiste. Le communisme est la forme dure des erreurs de la Russie. Le mondialisme actuel en est la forme douce. Évidemment, pour s'imposer, un régime totalitaire ne peut commencer que par une phase violente, afin d'éliminer toute possibilité de résistance efficace. Ensuite, quand il a suffisamment affermi son pouvoir, il peut passer à une vitesse de croisière où il se fait plus doux. Notons cependant que les persécutions du temps de l'Antéchrist seront terribles. En effet, dans sa rage, Satan voudra détruire tout ce qui reste de chrétiens sur cette terre. Ces erreurs de la Russie, c'est principalement l'athéisme social, qui est un rejet du règne de notre Seigneur sur nos pays et qui est donc un antithéisme destructeur de tout l'ordre naturel et surnaturel. Écoutons le pape Pie XI dans l'encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937. Citation. La doctrine que le communisme cache sous des apparences parfois si séduisantes a aujourd'hui pour fondement les principes du matérialisme dialectique et historique déjà prônés par Marx. Cette doctrine enseigne qu'il n'existe qu'une seule réalité, la matière, avec ses forces aveugles. La plante, l'animal, l'homme sont le résultat de son évolution. De même, la société humaine n'est pas autre chose qu'une apparence ou une forme de la matière qui évolue suivant ses lois. Par une nécessité inéluctable, elle tend, à travers un perpétuel conflit de forces, vers une synthèse finale, une société sans classe. Dans une telle doctrine, c'est évident, il n'existe pas de différence entre l'esprit et la matière, ni entre l'âme et le corps, il n'y a pas de survivance de l'âme après la mort, et par conséquent, nulle espérance d'une autre vie. Fin de citation. N'y a-t-il pas maintenant beaucoup de nos contemporains, disons même la plupart, qui sont imprégnés de ces erreurs. Comment en est-on arrivé là? Citons Jean Madiran dans l'avertissement de son ouvrage « La vieillesse du monde » sur le communisme. Citation. « Le communisme est la vieillesse du monde, non pas seulement parce que son univers est triste et vieux, mais parce qu'il pousse sur le terreau de notre tristesse et de notre vieillissement. Le communisme est la vieillesse du monde entier, la nôtre. Il est la sclérose et la retombée de notre histoire humaine. Il est la vieillesse du monde contemporain, il est la vieillesse de l'humanité. Si l'avenir lui appartenait, ce serait la fin de l'histoire, dans l'échec, le néant, la mort. Ce que nous portions en nous de pire depuis le début du monde moderne ou depuis le début de l'humanité, il en est le collecteur, le rassembleur, l'organisateur. Il est la caricature formidable de nos injustices, de nos despotismes, de nos lâchetés. Il les a, par un passage à la limite, synthétisés dans l'efficacité chimiquement pure de la tyrannie et de la destruction. Il ne nous est ni accidentel, ni étranger. Il procède de nous. Il sort du monde chrétien. Il est le fruit ultime de l'apostasie des nations chrétiennes. Il est la dernière hérésie. Au-delà de l'intrinsèquement pervers enfin atteint, il n'y a plus rien. » Fin de citation de Jean Madiran, « La vieillesse du monde ». Tout cela, en fait, donc, n'est que le châtiment de la longue décadence du monde qui a commencé spécialement à la Renaissance, a ensuite donné naissance au protestantisme qui rejetait l'Église, puis aboutit à la Révolution de 1789, rejetant notre Seigneur, en gardant une sorte de déisme, le culte de l'être suprême, et qui conduira au communisme, évacuant toute idée de Dieu. Le communisme a pris aujourd'hui la forme du mondialisme, mais c'est la même erreur qui nous étouffe. Le mal est si grand qu'il n'est plus au pouvoir des hommes d'y porter remède. La décadence se serait arrêtée si les hommes avaient écouté les appels du Sacré-Cœur de Jésus, et la révolution n'aurait pas eu lieu. Mais maintenant, nous en sommes arrivés à la situation actuelle. Cependant, la miséricorde divine infinie nous a donné un ultime remède en nous envoyant celle par qui le salut nous est venu il y a 2000 ans et dont l'influence ne doit cesser de grandir à l'approche de la fin des temps, nous dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la très sainte Vierge Marie. Bien sûr, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Il faut d'abord nous convertir et faire pénitence. Du Laos à Fatima, en passant par Lourdes et la Salette, Notre-Dame ne cesse d'y revenir avec insistance. Nous verrons en deuxième partie ce qu'elle nous demande plus particulièrement depuis Fatima. Et pour qu'elle fasse cesser le cancer du communisme qui ronge aujourd'hui le monde, elle demande simplement qu'on ne fasse rien d'autre que lui donner la Russie en la consacrant à son cœur immaculé. Mais les hommes préfèrent toujours se fier à leur propre plan plutôt que d'accepter humblement le plan de Dieu. C'est à partir de 1929, le 13 juin exactement, que Notre-Dame demande au pape Pie XI, par l'intermédiaire de sœur Lucie, de consacrer la Russie. Citation de la très sainte Vierge Marie. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Il n'y aura aucune suite, et notre Seigneur s'en plaindra à sœur Lucie. Citation. Fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France en retardant l'exécution de ma demande, qu'ils le suivront dans le malheur. Jamais, cependant, il ne sera trop tard pour recourir à Jésus et à Marie. Le malheur dont parle notre Seigneur, ce va être l'infiltration de l'Église, la Deuxième Guerre mondiale et le communisme qui se répandra sur la moitié de la planète avec ses 100 millions de morts au total. 100 millions de morts. Qui en parle aujourd'hui? Mais arrêtons-nous à l'infiltration de l'Église parce que c'est le moins connu peut-être et surtout que c'est la plus grande victoire du communisme. Car en infiltrant l'Église, il détruisait le seul vrai obstacle à sa conquête du monde. La première vague d'infiltration a eu lieu quand Pie XI n'a pas jugé utile de consacrer la Russie. C'est à partir de ce moment que Moscou commença à donner des directives à tous les partis communistes pour qu'ils envoient des sujets dans les séminaires et maisons de formation catholiques afin d'infiltrer l'Église déjà affaiblie par le modernisme et de la miner de l'intérieur en gravissant progressivement les échelons de la hiérarchie. Les documents abondent sur cette question. Le cadre de cette conférence ne permet pas de les citer, nous ne pouvons donner qu'un certain nombre de références à ceux qu'ils demanderont. En tout cas, dans un ouvrage sur les évêques des États-Unis, un ouvrage paru en 2002, un certain Paul Likoudis écrit, citation, « La tactique principale projetée après l'arrivée de ces hommes au pouvoir, ceux qui ont été infiltrés, était de donner à l'Église du passé la réputation d'être oppressive, autoritariste, pleine de préjugés, arrogante et fermée sur le monde. » Fin de citation. Manning Johnston, un infiltré converti, ajoutera, citation, « Il s'agissait d'arriver à ce que l'Église catholique ne combatte plus le communisme et que les clercs se détournent du spirituel pour mener une action purement temporelle et politique. » Fin de citation. Le but était donc d'amener les hommes d'Église à une sorte d'athéisme pratique. Le mot peut sembler fort, mais Jean Madiran l'a employé à propos des évêques français. Nous arrivons au pontificat de Pie XII. Parallèlement au long travail de sape qui était en train de miner l'Église de l'intérieur, signalons trois étapes capitales qui eurent lieu au cours du pontificat de Pie XII. Premièrement, en pleine guerre mondiale, la Seconde Guerre, Roosevelt, qui voulait s'allier à Staline contre Hitler et qui était gêné dans ce plan par l'opposition de plusieurs évêques et de la plupart des catholiques américains, réussit à persuader Pie XII de ne plus faire état de l'interdiction de collaborer avec le communisme formulée par l'encyclique Divini Redemptoris de Pie XI. Roosevelt promettait au pape qu'après la guerre, collaborant avec les alliés, Staline serait bien obligé de cesser de persécuter l'Église. Citons Pie XII lui-même. À la demande du président Roosevelt, le Vatican a cessé toute polémique avec le régime communiste. Mais ce silence qui pèse à nos consciences, n'a pas été compris par les dirigeants soviétiques qui poursuivent en URSS et dans les pays occupés par les troupes de l'armée rouge leur persécution contre les églises et les fidèles. Dieu fasse que le monde libre n'ait pas un jour à regretter mon silence, ajoute Pie XII. Fin de citation. Le deuxième point capital fut l'accord secret en 1942 dans le dos du pape entre Staline et Mgr Montini, futur Paul VI. Rien n'a filtré du contenu de cet accord, mais il est permis de supposer que Montini assurait Staline que tout serait fait pour que le communisme ne soit plus condamné. Cet accord sera révélé par Mgr Roche, qui dit que cet premier accord entre le Vatican et Staline et les communistes, donc par l'intermédiaire de Mgr Montini, ce premier accord est fondamental. Troisièmement, pendant ce temps, le ciel pressait Pie XII de consacrer la Russie. Dans la nuit du 5 mars 1942, écrit Sœur Lucie, notre Seigneur a semblé me faire sentir plus vivement qu'il refusait d'accorder la paix à cause des crimes qui continuent à provoquer sa justice et aussi parce qu'il n'est pas obéi dans ses demandes, spécialement pour la consécration au cœur immaculé de Marie, bien qu'il ait mû le cœur de sa sainteté à l'accomplir. Fin de citation de Lucie. Hélas, le pape n'a rien fait et une deuxième vague d'infiltration de l'Église est partie de Moscou. Le général Serov, chef des services secrets soviétiques, fondait le mouvement Pax, qui, sous les apparences d'un organisme catholique progressiste agissant en Pologne, avait mission de s'infiltrer dans toute l'Église. Jean Madiran publia tous les documents dans Itinéraire. Le mouvement Pax avait même été condamné par la secrétaire d'État. Donc ce ne sont pas des inventions tout cela. Le ciel continua à insister. Le pape fut témoin du miracle du soleil 4 fois sur les terrasses du Vatican en 1950. Mais il mourra sans accomplir les demandes de Notre-Dame. À sa mort, les ténèbres allaient envahir l'Église, car ceux qui s'étaient infiltrés avaient eu le temps de gravir les échelons de la hiérarchie et de mettre sur le siège de pierre des papes imbus des idées libérales qui serviront leur plan. Les papes de Vatican II. Nous ne pouvons analyser ici en détail les pontificats de Jean XXIII à François. Ces papes semblent bien réaliser le rêve des sociétés secrètes manifesté dans les documents de la Haute Vente publiés sur ordre du pape Pie IX, citation. Ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Alors là, il parle à ceux qui vont essayer de rentrer dans l'Église pour l'infiltrer. Vous vous arrangerez à peu de frais une réputation de bon catholique et de patriote pur. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il sera appelé à choisir le pontife qui devra régner, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes humanitaires. Vous aurez alors prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière. Fin de citation de la Haute Vente. Dans le prologue de son itinéraire spirituel, Mgr Lefebvre écrivait, citation, « Depuis Jean XXIII et Paul VI, les autorités romaines se sont faites les collaboratrices actives de la franc-maçonnerie juive internationale et du socialisme mondial. Jean-Paul II est avant tout un politicien philo-communiste au service d'un communisme mondial à teinte religieuse. Il attaque ouvertement tous les gouvernements anticommunistes et n'apporte par ses voyages aucun renouveau catholique. » Fin de citation de Mgr Lefebvre. Benoît XVI et François continueront dans la même ligne. C'est le Concile Vatican II qui fut l'occasion pour les progressistes de faire triompher leur doctrine, de s'emparer des postes clés et d'obliger toute l'Église à adopter leurs erreurs. 2 points sont à noter au sujet de la mainmise du communisme sur le Concile. Tout d'abord, un nouvel accord secret, Rome-Moscou, négocié en 1962 par le cardinal Tisserand, cette fois à la demande du pape et non pas dans son dos. Le pape s'était engagé à ce que le concile, réuni officiellement pour aborder les problèmes du temps présent, ne condamne pas le communisme qui tenait pourtant en esclavage la moitié de la planète. C'était la condition posée par Moscou à la présence d'observateurs orthodoxes russes à Vatican II. Ce pacte secret guidera la politique du Vatican dans toutes les années qui ont suivi. D'autre part, Moscou doubla le budget de Pax à l'occasion de l'ouverture du concile. Un certain nombre d'idées mises alors en circulation dans les milieux catholiques occidentaux et notamment dans la presse française coïncidèrent exactement avec les formules de propagande les plus constantes de l'organisation Pax, spécialement pour amener l'Église universelle à collaborer activement à la construction du socialisme et la faire évoluer en y introduisant la lutte dialectique. Progressiste contre intégriste, novateur contre réactionnaire, etc. La curie romaine étant le bastion le mieux défendu contre les infiltrations, manœuvres et chantages de l'appareil communiste, ce fut elle qui fut particulièrement attaquée par le moyen de la presse du monde entier. Les critiques continuelles des théologiens progressistes contre la curie, et là je cite Jean Madiran, n'auraient jamais réussi à mettre en marche les journaux, les radios et l'immense fantasmagorie des moyens de communication sociale sans l'aide puissante de l'organisation Pax. Fin de citation de Madiran. Les évêques avaient été pourtant avertis. Avant l'ouverture du concile, ils avaient tous reçu un ouvrage suscité par plusieurs membres de la curie et réalisé par une équipe de chercheurs des facultés romaines et de plusieurs universités d'Amérique du Sud sous la direction du père Maurice Pinet, jésuite. C'est un pseudonyme ce nom, mais c'est un jésuite, ce père Pinet. Le titre en était, citation, « 2000 ans de complot contre l'Église ». Dans la préface de l'édition italienne, on pouvait lire, écoutez bien, « La plus perverse conspiration jamais réalisée contre la Sainte Église est en passe d'être réalisée. Ses ennemis trament de détruire ses traditions les plus sacrées en opérant des réformes aussi audacieuses et malignes que celles de Calvin, de Zwingli et d'autres hérésiarques, et cela au moyen d'un faux zèle de moderniser l'Église et de la placer à la hauteur de notre époque. Mais en réalité, avec le propos d'ouvrir la porte au communisme, d'accélérer la chute du monde libre et de préparer la destruction à venir du christianisme. » Je continue la citation. « Tout ce projet qui paraît incroyable, certains veulent le voir réalisé au cours du Concile Vatican II. Et nous sommes en possession d'évidences montrant comment tout a été tramé dans des réunions secrètes avec de hauts fondés de pouvoir du communisme, de la maçonnerie mondiale et de la puissance occulte qui tient les deux sous son contrôle. Les cardinaux, les archevêques et les évêques qui sont de leur bord formeront une sorte d'aile progressiste dans le concile et s'efforceront d'accomplir ces réformes perverses en surprenant la bonne foi et le désir de progrès de beaucoup de pieux pères. » Fin de citation de la préface de l'édition italienne de 2000 ans de complot contre l'Église. L'ouvrage suscita cependant l'indifférence de la plupart des pères qui n'avaient aucune formation sur le combat des deux cités et les méthodes de la subversion, ce qui est dramatique pour des successeurs des apôtres, chefs spirituels du peuple chrétien. Mais le drame du concile fut surtout que les papes Jean XXIII et Paul VI étaient des libéraux qui ont soutenu les progressistes. Sans ce soutien, les novateurs n'auraient jamais pu prendre le pouvoir comme ils l'ont fait. Et à ce sujet, vous pouvez lire l'ouvrage du père Wildgen, « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Du communisme au mondialisme, vers l'antéchrist. En 1981, le rideau de fer était démantelé. La dernière étape de la révolution était en marche. Le communisme avait permis l'avènement du mondialisme. Dans son ouvrage « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie », M. Jean-Claude Lozach-Meur explique bien le plan de la secte, ce qui est en cours actuellement. Citation. « Il s'agit d'instaurer une civilisation qui aura pour objectif la divinisation de l'homme par le développement des sciences et des techniques. Dans cet univers globalisé, d'où famille et patrie auront disparu, on pratiquera l'eugénisme et l'euthanasie. L'individu, libéré des règles de la morale, pourra s'adonner aux passions les plus viles. Quant aux religions, elles auront été unifiées au sein d'une Église universelle ayant pour loi la religion de Noé, chère aux kabbalistes. Après la transformation de toutes les sectes religieuses, de toutes les formes de gouvernement et d'État les unes dans les autres, ce sera l'âge d'or qui précédera le jugement dernier et dont la caractéristique politique sera l'avènement de la monarchie universelle par le gouvernement d'un chef unique, à la fois roi et prêtre. Fin de citation. Ce maître de la terre ne sera autre que l'Antéchrist. On comprend dès lors les propos de Notre-Dame de Fatima à Sœur Lucie. Le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge. Et une bataille décisive est une bataille finale, où l'on saura de quel côté est la victoire, de quel côté la défaite. Aussi, dès à présent, où nous sommes à Dieu, où nous sommes au démon, il n'y a pas de moyen terme. Fin de citation. Dans cette bataille, les âmes tombent en enfer, en tourbillon. La Sainte Vierge l'a montré aux enfants le 13 juillet 1917. Mais il faut se rappeler ces paroles de Sœur Lucie. Jamais il ne sera trop tard pour recourir à Jésus et à Marie. Voyons donc maintenant ce que nous pouvons faire. C'est notre deuxième partie. Pour ramener les hommes en révolte à l'humilité qui est la première étape du salut, Dieu se plaît souvent à intervenir en prenant les instruments les plus faibles pour leur faire accomplir des actions humainement sans proportion avec le résultat visé. Ainsi, il est évident pour tous que c'est Dieu qui a donné la victoire. Les exemples abondent dans l'histoire, de Gédéon à Jeanne d'Arc, en passant par les Maccabées, ou les trois enfants de l'île Bouchard qui ont sauvé la France du communisme. Trois enfants. À Fatima, pour sauver les âmes et obtenir la paix mondiale par la conversion de la Russie, Dieu va chercher trois petits enfants qui ne savent ni lire ni écrire dans un humble village inconnu du sud du Portugal, mais qui a conservé des mœurs chrétiennes admirables. Lisez le 5e et le 6e mémoire de Sœur Lucie. Vous connaissez les noms des enfants? François Marteau, 7 ans et demi. Jacinthe Marteau, 6 ans. Et Lucie dos Santos, 9 ans, leur cousine. Les demandes qu'ils auront à transmettre seront des plus simples, faciles à accomplir. Mais nous devons commencer en voyant comment l'ange du Portugal s'y est pris pour préparer les enfants à la venue de la Vierge Marie. Ce qu'il leur fait faire, ce qu'il leur demande, est déjà une leçon fondamentale pour l'homme moderne qui s'est fait Dieu. Par François, Jacinthe et Lucie, l'ange veut ramener l'humanité à l'humilité et à l'adoration qui en découle. L'apparition de printemps 1916. Il faudrait lire le récit délicieux de Sœur Lucie. Le temps manque pour le faire, mais lisez-le vous-même dans ses mémoires qui sont vraiment le livre de l'année. Les enfants étaient en train de jouer. L'ange gardien du Portugal leur apparut et leur dit « Priez avec moi ». Et s'agenouillant à terre, il baissa le front jusqu'au sol. Poussé par un mouvement surnaturel, écrit Sœur Lucie, nous l'imitâmes et nous répétâmes les paroles que nous lui entendions prononcer. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Après avoir répété cette prière trois fois, il se releva et nous dit « Priez ainsi. » Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Par cette prière, l'ange du Portugal indique les différentes étapes qui conduisent de l'athéisme à l'union à Dieu. Parcourons-les rapidement. Le péché fondamental de l'homme moderne est l'orgueil. C'est le péché d'Adam étendu à toute la société. L'homme a voulu devenir comme Dieu. Il se crée sa vérité. Il organise le monde sans tenir compte de Dieu, voulant décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, fondement des sociétés modernes. Citation, « La loi est l'expression de la volonté générale ». Pour être sauvé, l'homme moderne devra d'abord revenir à la vérité. Et c'est cela la vertu d'humilité qui détruit l'orgueil. L'humilité, dit le père Garrigou Lagrange, est fondée sur la vérité, surtout sur cette vérité qu'il y a une distance infinie entre le Créateur et la créature. Plus cette distance apparaît de façon vive et concrète, plus on est humble. Fin de citation. Des trois âges de la vie intérieure. L'humilité pousse alors à l'adoration. L'adoration consiste principalement dans la révérence intérieure de Dieu, dit saint Thomas d'Aquin, et secondairement en signe corporel d'humilité, fléchir le genou, se prosterner. Fin de citation de saint Thomas. Rappelons ici que le mot « humilité » vient du latin « humus », qui veut dire « terre ». On fléchit le genou ou on se prosterne à terre pour reconnaître qu'on est poussière devant notre Créateur. Alors la foi, qui est un don de Dieu, peut être reçue dans l'âme. C'est l'humilité qui lui a ouvert la porte. L'humilité, dit encore saint Thomas d'Aquin, écarte cet orgueil qui fait que l'intelligence refuse de se soumettre à la vérité de foi. Fin de citation. Et maintenant, tout va pouvoir s'enchaîner. Pour aller à Dieu, l'âme comprend qu'elle doit s'appuyer sur Dieu, c'est la vertu d'espérance. Viendra enfin la vertu de charité qui réalise l'union immédiate de notre volonté avec la volonté divine, c'est la perfection. C'est le sommet de l'union avec Dieu. Évidemment, tout ce cheminement rappelé par la prière de l'ange est une grâce, une succession de grâces. Comment les obtenir à l'homme moderne? C'est toute la doctrine de la satisfaction pour autrui, du latin satisfacere, faire assez pour réparer le mal du prochain. La satisfaction offerte pour un autre, dit saint Thomas d'Aquin, ressemble à une certaine somme que l'on acquitte pour racheter son péché et sa peine. Fin de citation. La prière enseignée par l'ange est ainsi une prière réparatrice. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Il s'agit ici d'offrir à Dieu des actes de foi, d'adoration, d'espérance et de charité, en compensation de ce que les hommes modernes ne font pas, afin de leur obtenir la grâce de les faire. On sait que par la suite, les enfants feront cela pendant des heures jusqu'à épuisement. L'apparition de l'été 1916. Après avoir laissé les enfants s'exercer à cette prière réparatrice pendant plusieurs mois, l'ange revient au cours de l'été pour apporter un élément nouveau, le sacrifice. François, Jacinthe et Lucie étaient en train de jouer sur le puits dans la propriété des parents de Lucie à l'heure de la sieste, lorsque l'ange se montra à eux pour la deuxième fois. « Que faites-vous » dit-il. « Priez, priez beaucoup. » Les cinq heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés dont il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Fin de citation de l'ange du Portugal. Le sacrifice est une offrande faite à Dieu en signe de la sujétion et de l'honneur que nous lui devons. Le sacrifice est d'abord intérieur. C'est l'oblation spirituelle que l'âme fait d'elle-même à Dieu parce qu'elle reconnaît en lui son premier principe et sa fin dernière, autrement dit, son créateur et le but de sa vie. Mais cette oblation intérieure, si elle est réelle, cherche à se manifester extérieurement. C'est le sacrifice extérieur qu'on retrouve dans la plupart des religions. On sacrifie à Dieu un animal ou tout autre bien extérieur pour les rendre à Dieu, en quelque sorte. Mais, explique saint Thomas d'Aquin, on peut aussi faire hommage à Dieu des actes extérieurs de nos vertus. Par exemple, en offrant de nous-mêmes un acte de mortification corporelle, ou un devoir qui coûte, ou en acceptant dans cet esprit les épreuves et les souffrances envoyées ou permises par la Providence. Tout cela, ce sont des sacrifices. Et c'est dans ce sens que l'ange demande des sacrifices aux trois enfants de Fatima, et, comme pour la prière, dans un but réparateur pour les pécheurs, afin d'obtenir leur conversion et la paix pour leur patrie. À partir de ce moment, écrira sœur Lucie, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait. Ils le feront jusqu'à l'héroïsme. L'apparition de l'automne 1916. Cependant, nos prières et nos sacrifices n'ont de valeur qu'unis au sacrifice de notre Seigneur renouvelé sur l'autel à la messe et auquel nous sommes incorporés par la Sainte Communion, devenant une seule victime avec notre Seigneur. L'ange revient donc à l'automne 1916. Il apprend d'abord aux enfants une prière réparatrice à la Sainte Trinité, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences envers le Saint-Sacrement. C'est l'écho des paroles de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Puis il leur donne la Sainte Communion. La mission de l'ange est maintenant terminée. Il a tracé le programme. Pour que ce programme puisse être réalisé, il va maintenant falloir que la médiatrice universelle intervienne. La médiation du cœur immaculé de Marie. Fatima, c'est le salut du monde confié au cœur immaculé de Marie. L'ange avait d'ailleurs fait la transition de la prière réparatrice qu'il avait enseignée aux enfants en automne. Il devait y demander la conversion des pécheurs par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. Le 13 juin 1917, Notre-Dame dira à Lucie « Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À celui qui l'accepte, je promets le salut » et ces âmes seront aimées de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Belle récompense. Qu'est-ce que le cœur immaculé de Marie? Il faut d'abord comprendre ici le mot cœur dans son sens biblique. Il ne s'agit pas seulement de l'organe corporel, le muscle de chair, ou du siège de nos sentiments, mais de manière générale, de l'âme humaine en toutes ses facultés. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, avait dit Dieu dans la Genèse. Immaculé dans sa conception, d'une correspondance d'amour aux moindres inspirations du Saint-Esprit, l'âme de Notre-Dame est le chef-d'œuvre, l'image parfaite de la Sainte Trinité, et donc le modèle parfait de la créature. Dans l'oraison de la messe du 22 août, l'Église demande pour nous la grâce de vivre selon le cœur de Dieu en célébrant la solennité du cœur immaculé de Marie. Ut eiusdem immaculati cordis festivitatem devotamente recolentes secundum cor tuum vivere valeamus. L'Église nous fait comprendre ici que le moyen de vivre selon le cœur de Dieu, c'est l'imitation des vertus de Notre-Dame. Avoir une vraie dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est donc par elle, avec elle, en elle et pour elle, comme dit Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, nous conformer toujours plus, par amour, à la volonté de Dieu du moment présent. Par elle, avec elle, en elle, pour elle, nous conformer toujours plus, par amour, à la volonté de Dieu du moment présent. Ceci est la dévotion à Notre-Dame pour tous les temps. Il est important de comprendre quelle précision la Vierge Marie apporte à Fatima pour aujourd'hui. Écoutons Sœur Lucie. Le plus important est l'accomplissement du devoir quotidien et l'offrande des sacrifices nécessaires à l'accomplissement de notre devoir pour les pauvres pécheurs. Les demandes secondaires sont le chapelet et le scapulaire, et peut-être plus spécialement ce que ces deux dévotions exigent respectivement, la méditation attentive des mystères du rosaire et la consécration au cœur immaculé de Marie. Expliquons brièvement ces différents points et tout d'abord ce qui est le plus important. Premièrement, l'accomplissement du devoir quotidien. Nouvelle citation de Sœur Lucie. À maintes reprises, pendant les précieuses heures que je passais en sa compagnie, Notre-Dame insista sur l'accomplissement du devoir quotidien selon notre condition de vie, et l'offrande de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Ceci est la condition fondamentale qui nous permettra de repousser le flot des forces du mal qui menacent de submerger le monde d'aujourd'hui. Ces paroles de Sœur Lucie nous montrent en même temps qu'à l'époque actuelle, et comme pour la dévotion au Sacré-Cœur, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie est une dévotion réparatrice. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame, dit Sœur Lucie, se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblait s'y enfoncer. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Il s'agit ici de l'apparition du 13 juin 1917. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Les péchés sont devenus comme un flot qui submerge le monde. Et depuis notre Seigneur, jamais le nombre d'âmes qui se damnent n'a été si grand. Notre-Dame a donc montré l'enfer aux enfants le 13 juillet. La Vierge Marie nous invite alors à sauver des âmes en offrant à son cœur immaculé, d'abord pour nos propres péchés, n'oublions pas, et pour la conversion des pécheurs, les sacrifices nécessités par l'accomplissement de nos devoirs quotidiens. C'est ainsi que nous ramènerons à Dieu l'homme moderne qui ne remplit plus ses devoirs envers Dieu, envers lui-même et envers le prochain, parce qu'il ne pense plus qu'à réclamer ses droits. Chaque jour au lever, nous pourrions réciter l'invocation enseignée par Notre-Dame aux enfants le 13 juillet, citation. « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Fin de citation. Cette consécration matinale influera sur toutes nos actions de la journée qui auront alors la valeur d'offrande réparatrice au cœur immaculé de Marie, même lorsque nous n'y pensons pas sur le moment. Mais il est bon, bien sûr, de renouveler cette offrande dans la journée sous forme d'oraison jaculatoire, en particulier lorsqu'un sacrifice est à offrir. Deuxièmement, consécration à Notre-Dame. Tout cela revient et conduit à la consécration de toute notre vie à notre Seigneur par la Vierge Marie. C'est l'oblation spirituelle, le sacrifice intérieur manifesté par la pratique extérieure des vertus dont nous avons parlé à propos des apparitions de l'ange de l'été 1916 et réalisé maintenant par la médiation de Notre-Dame. Troisièmement, port du scapulaire. Dans l'esprit de Fatima, le scapulaire du Mont Carmel, qui a été montré aux trois enfants par Notre-Dame le 13 octobre, pendant que la foule voyait le miracle du soleil, ce scapulaire est à la fois le signe de notre consécration à Marie est le gage de sa protection toute particulière. Quatrièmement, récitation quotidienne du chapelet. Quant au moyen principal donné par Notre-Dame pour accomplir cet idéal, c'est le rosaire. La Vierge Marie, continue sœur Lucie, m'expliqua aussi combien le rosaire est important, parce que c'est l'un des principaux moyens qui nous sont donnés par Notre-Dame pour la sanctification de notre devoir quotidien. Fin de citation. Rappelons ici que dans son encyclique « Laetitiae Sanctae », le pape Léon XIII voyait dans le rosaire le meilleur remède aux maux actuels de la société. Citation. L'aversion pour la vie humble et laborieuse trouve son remède dans la méditation des mystères joyeux. L'horreur de tout ce qui fait souffrir est guérie par la méditation des mystères douloureux qui enseignent la patience. Enfin, l'oubli des biens futurs trouve son remède dans la méditation des mystères glorieux. Fin de citation de Léon XIII. Le rosaire est donc le moyen le plus efficace pour échapper à l'endoctrinement et au conditionnement des esprits organisés aujourd'hui par les mondialistes. La demande de réciter le chapelet chaque jour est d'ailleurs si importante pour la Vierge Marie qu'elle y revient comme en un refrain à chacune de ses apparitions de mai à octobre 1917, et que le 13 octobre où elle avait promis qu'elle dirait son nom, elle s'appellera Notre-Dame du Rosaire. Il s'agit bien sûr dans cette récitation de se tenir en présence de la Vierge Marie et de méditer ou contempler les différents mystères l'un après l'autre. On pourra s'aider des petits livrets de méditation très nombreux qui existent à ce sujet. Enfin, cinquièmement, la communion réparatrice des cinq premiers samedis du mois. Cette vie réparatrice à laquelle Notre-Dame nous appelle tous devait trouver son couronnement dans la communion eucharistique. Rappelons-nous l'apparition de l'ange du Portugal de l'automne 1916. Et pensons à la magnifique vision trinitaire de Tuy qui résume toute la spiritualité de Fatima. C'est la communion réparatrice des cinq premiers samedis du mois, annoncée dès le 13 juillet 1917, que Notre-Dame viendra demander à Pontevedra le 10 décembre 1925, et pour laquelle elle apportera des précisions à Tuy le 29 mai 1930. Vous en connaissez les différents aspects, je voudrais juste dire à quelle intention particulière doit être offerte cette communion et tous les actes qui l'entourent. La confession, qui peut être faite 8 jours avant ou après, la récitation du chapelet, la méditation de 15 minutes sur un ou plusieurs mystères du rosaire et la communion eucharistique qui peut avoir lieu le dimanche, le lendemain, si un prêtre constate l'empêchement de faire cette communion le samedi. Je vous cite le frère François de Marie des Anges à propos de cette communion réparatrice. Depuis que Dieu a décidé de manifester son dessein d'amour, qui est d'accorder ses grâces aux hommes par la médiation de la Vierge Immaculée, il semble que leur refus de se soumettre docilement à cette volonté soit la faute qui blesse particulièrement son cœur et pour laquelle il ne trouve plus en lui-même aucune inclination à pardonner. Ce péché-là paraît irrémissible. C'est un péché que l'Évangile appelle le péché contre l'Esprit Saint, dit sœur Lucie. Péché qui ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre, car il n'y a pas pour notre Sauveur de crime plus impardonnable que de mépriser sa très sainte mère et d'outrager son cœur immaculé qui est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Fin de citation du frère François de Marie des Anges. Alors la Vierge Marie, qui est reine de miséricorde, ne pouvant supporter que des âmes soient damnées à cause de péchés commis contre elle, a obtenu de son Fils que cette petite pratique obtienne le salut de beaucoup de ses âmes. Citation de notre Seigneur. Voilà le motif pour lequel le cœur immaculé de Marie m'a inspiré de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde pour pardonner aux âmes qui ont eu le malheur de l'offenser. » Fin de citation. Notre-Dame y accorde tellement d'importance qu'elle promet aux fidèles qui auront pratiqué cette dévotion 5 samedis de suite de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Et en même temps, la Très Sainte Vierge Marie unit cette pratique de la dévotion des 5 samedis, de cette communion réparatrice, à la consécration de la Russie pour obtenir le triomphe de son cœur immaculé. Nous avons donc maintenant les 5 points caractéristiques de la dévotion au cœur immaculé de Marie dans l'esprit de Fatima. Premièrement, l'accomplissement de nos devoirs quotidiens offerts au cœur immaculé de Marie en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Deuxièmement, la consécration à Notre-Dame. Troisièmement, le scapulaire qui en est le signe. Quatrièmement, la récitation quotidienne du chapelet. Et cinquièmement, la communion réparatrice des 5 premiers samedis. Voyons maintenant le lien entre la pratique de cette dévotion réparatrice et la conversion de la Russie. La conversion de la Russie aura lieu quand un nombre suffisant de catholiques offriront leurs sacrifices et accompliront les demandes de Notre-Dame, dit sœur Lucie. Ceci revient à dire que la conversion de la Russie aura lieu lorsque suffisamment d'âmes, aux yeux de Dieu, auront consacré toute leur vie à Notre-Dame. C'est cela qui obtiendra au pape la grâce de se convertir et de consacrer la Russie. Quant à nous, personnellement, unis à la dévotion au Sacré-Cœur, la dévotion au cœur immaculé de Marie nous obtiendra le salut et, si des temps difficiles doivent arriver, nous permettra de les traverser sans perdre notre âme, nous obtenant la grâce du martyre si cela est nécessaire. Ainsi soit-il.